Comment se fait-il qu'à différentes époques, à des distances très éloignées et sans aucun moyen de communiquer, les hommes de la préhistoire ont eu besoin de s'exprimer en même temps en produisant de l'art sous plusieurs formes, peinture, gravure ou sculpture, les parois rocheuses ou les objets se sont développés sur tous les continents et les éditions Citadel et Masno publient un beau livre qui fera date sur l'art de la préhistoire. Je reçois l'archéologue Carole Fritz qui l'a coordonné avec le préhistorien et plasticien Gilles Tozello. Ils sont mes invités pour un tour du monde des centres mondiaux de l'art rupestre. Ils vont répondre également à toutes vos questions qui arrivent déjà nombreux sur ces premiers artistes qui sont nos ancêtres. Et vous pouvez nous rejoindre maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
On va rester dans la préhistoire d'ailleurs ensemble avec les premiers hommes qui seraient arrivés en Amérique.
En effet, l'ADN a parlé et en l'occurrence celui des restes fossilisés d'un nourrisson de 6 semaines retrouvé en Alaska en 2013. Il nous éclaire aujourd'hui sur l'histoire du peuplement du continent américain et on en parle avec l'anthropologue Stéphane Mazière.
Et puis comme tous les jeudis, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupin qui posera la question de l'intérêt réel des compléments en vitamine D ou en calcium pour renforcer le squelette. C'est Céline Hila qui réalise notre tête au carré préparé par Chantal de Montagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'art de la préhistoire, ce sera donc le dossier dans un instant de l'émission avec mes invités que je salue, les préhistoriens Carole Fritz et Gilles Tozello. Bonjour à tous.
Bonjour.
Les deux.
Bonjour.
Bienvenue Carole Fritz. Est-ce que c'est Homo sapiens qui a inventé l'art? On peut dire les choses comme ça ou pas?
Alors inventer, moi je dirais oui. Faut savoir que c'est des questions qui sont un peu polémiques.
Hein. N'est-ce pas?
Moi je pense, et nous pensons, pour ceux qui ont participé à l'ouvrage, que c'est Homo sapiens sapiens qui a produit les premières images complexes. Ouais. Je ne parle pas de symbolisme, je parle d'image.
Ouais.
Et la différence, elle est là.
On va en parler évidemment avec vous dans un instant. Gilles Tozello, vous avez travaillé vous sur la reproduction de la fresque des lions, par exemple, hein, dans la grotte Chauvet. Alors vous avez eu la chance d'y aller de très nombreuses fois. Est-ce que les hommes préhistoriques étaient des artistes avec un haut degré de technicité?
Oui, ben ça je crois qu'on peut le dire sans grande difficulté. C'est ça d'ailleurs probablement qui fait le côté le plus humain, hein, qui passe de la préhistoire. C'est toujours vers ça, vers l'art qu'on se tourne, hein, lorsqu'on s'intéresse à la préhistoire. C'est ça qui est le plus populaire et c'est pas pour rien, quoi.
Allez, on va en discuter donc ensemble dans quelques minutes autour de ce beau livre, L'art de la préhistoire, publié chez Citadel et Masno. Et à la une de la science aujourd'hui, des preuves génétiques sur la première population des Amériques qu'on appelle les anciens Béringiens.
La découverte d'un passage a marqué le début du peuplement de l'Amérique. Mais qui étaient les tout premiers hommes à fouler ce continent? Quand et comment sont-ils arrivés?
Elle s'appelle la petite fille du lever de soleil. Elle a 11 500 ans. Ce nouveau-né de 6 semaines était le chaînon manquant pour expliquer l'arrivée et le rayonnement des premiers Amérindiens. Et grâce à l'étude de son génome, à partir de ses restes fossilisés retrouvés en Alaska en 2013, une équipe de chercheurs des universités de Copenhague, de Cambridge et d'Alaska lève le voile sur les premiers peuples d'Amérique. On en parle, Agnès, avec notre invité qui est en direct du bureau de Radio France à Marseille.
Stéphane Mazière, vous êtes anthropologue, spécialiste en génétique des populations et vous travaillez au laboratoire d'anthropologie biologique de Marseille. Bonjour.
Bonjour.
Alors, grâce à l'étude du génome de ce nourrisson de 6 semaines, on peut mieux retracer...
6 mois.
De 6 mois.
Il avait 6 mois ou 6 semaines, ce...
6 semaines. De 6 semaines.
6 semaines, il me semble.
Oui. Voilà, oui. On peut mieux retracer donc l'histoire et notamment dater l'arrivée des premiers Amérindiens en Amérique.
Ben oui, en fait, cet échantillon, on va dire, tombe à point nommé. C'est un échantillon qui est intermédiaire, je veux dire géographiquement intermédiaire, entre l'Asie et l'Amérique. C'est vraiment la pièce du puzzle qui manquait jusqu'à présent.
Ouais, Stéphane Mazière, je crois que vous avez un écho dans les oreilles, ce qui provoque une gêne, oui, pour discuter ensemble. Et on a le même problème, on va essayer de le régler ensemble, parce qu'effectivement, ça nous trouble beaucoup dans cette discussion en direct. Donc on va essayer de poursuivre confortablement pour discuter ensemble de ces travaux qui sont extrêmement importants, Agnès, hein, justement, pour retracer l'histoire de ces premiers habitants de l'Amérique. Hein.
Oui, il le disait à l'instant, Stéphane Mazière, c'était la pièce manquante qu'attendaient les chercheurs pour essayer d'expliquer donc, le peuplement de l'Amérique à partir de l'actuelle Sibérie.
jusqu'à l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, etc. Et cette dispersion à travers le grand continent américain. Et là, Stéphane Mazière, je ne sais pas si vous nous entendez, donc ils ont pu établir que ces premiers peuples seraient arrivés déjà sur en Béringie, donc la terre qui se situe sur l'actuel détroit de Bering, vers 36 000 ans, c'est ça, moins 36 000 ans.
Oui, c'est ça. Ils seraient arrivés alors bien avant qu'ils se déversent en Amérique, dans ce continent qui était inoccupé, et donc ils occupaient cette place qui était à l'époque immergée et aujourd'hui qui est sous l'eau depuis du fait de la montée du niveau de la mer. Et avant que les glaciers ne fondent en Amérique du Nord, ils étaient donc coincés en Béringie, ils sont restés là pendant plusieurs milliers d'années, et c'est un modèle qu'on appelle modèle d'incubation, pendant lequel ces populations ont acquis des mutations dans leur ADN qui n'existaient pas en Asie et qui vont se déverser ensuite en Amérique.
Donc c'était des Sibériens qui sont arrivés, qui ont franchi l'actuel détroit de Bering.
C'était effectivement des Sibériens, oui.
Et donc, quelle a été la suite de leur parcours? Ils sont arrivés à quel moment? Ils ont commencé à se disperser à quel moment, alors, en Amérique?
Alors, la dispersion serait concomitante avec la fonte des glaces. On imagine un peuplement à partir de 15 000 ans. À partir de 15 000 ans, ils commencent à migrer vers l'est et vers le sud, très probablement le long de la côte, le long du littoral.
Oui.
Voilà.
Et les auteurs les appellent les anciens Béringiens. C'était une population qui était inconnue jusque-là.
Oui, qui était inconnue parce qu'en fait, on n'a pas de traces. On a quelques traces archéologiques juste avant en Sibérie, juste après en Amérique. Donc, on a des Sibériens, on a des Amérindiens, ou ce qu'ils appelaient des fois des paléo-amérindiens. Mais ces Béringiens ont disparu parce que déjà leur terre a disparu et que se sont totalement déversés en Amérique. On n'a aucune trace. Et cet individu devient extrêmement intéressant puisqu'il est archéologiquement le plus représentatif de ce qui devait être cette population béringienne, proto-amérindienne ou ancestrale aux Amérindiens. Et en plus, ils ont réussi à récupérer son ADN. Et donc, on a quelque part une idée d'un échantillon biologique de ce que devait être le patrimoine génétique de cette première population ancestrale aux Amérindiens.
Alors Stéphane Mazière, comment on date exactement cette arrivée de ces premiers peuples? Parce qu'on a justement ce nourrisson qui a donc cette datation de 11 500 ans, et pourtant on estime que les premiers seraient arrivés il y a 35 000 ans. Alors comment on fait ce calcul exactement?
Alors ça c'est un calcul, ce sont plutôt des estimations par modélisation ou simulation informatique de ce que devait être la démographie pour obtenir le patrimoine génétique actuel. Mmh. Voilà, à partir des données génétiques, en fait.
D'accord, et c'est ainsi qu'on arrive à... Parce que donc, elle a 11 500 ans, mais on dit qu'elle est issue d'un groupe, ces fameux anciens Béringiens, qui remontent à plus de 20 000 ans. Donc, on peut remonter
oui,
comme
c'est ça
aussi.
En fait, c'est un principe qui... C'est ça. C'est un principe qui... Voilà, on prend plusieurs patrimoines génétiques et on essaie de voir à partir de quand ils devaient converger. C'est un modèle de convergence, de coalescence, à partir duquel quel devait être le nœud initial à partir duquel se sont dispersés.
Est-ce qu'on a d'autres preuves justement de l'arrivée de ces peuples où ils sont justement les pièces à conviction sont extrêmement rares sur ces époques?
On a quelques individus anciens qui ont été publiés depuis 5 ans. Alors, quelques-uns en Sibérie. Il y en a un qui a 24 000 ans et dont le patrimoine génétique serait probablement très proche de la première population qui serait partie vers la Béringie. Il y a des individus également dans l'actuel état de l'Oregon, datés environ à 12 000 ans, pour lesquels on a un contexte archéologique bien décrit et de l'ADN. On a un individu également dans le Montana. Et puis un peu plus au sud, en Amérique du Sud également, il y a un petit peu d'ADN ancien. Donc voilà, et puis surtout maintenant, il y a eu quelques papiers également pour la frange arctique. Pas mal d'individus, un peu plus récents par contre, qui n'ont pas 12 000 ans, qui ont par contre certains 4 000 ans, 2 000 ans, 1 000 ans. Mais on commence à voir, pour le nord de l'Amérique du Nord et sa frange arctique, un tir nourri, groupé d'individus anciens pour lesquels on a des données et archéologiques et génétiques.
En tout cas, ce groupe, ces anciens Béringiens, seraient à l'origine d'une vague de migration
majeure, primordiale en fait. Alors qu'à un moment donné, on pensait qu'il y avait eu plusieurs vagues de migration. Mais c'est eux qui seraient l'ancêtre de toutes les populations qu'on rencontre en Amérique aujourd'hui, y compris, vous venez de le dire, dans les régions arctiques.
Stéphane Mazière.
C'est ça, ce sont eux qui vont initier, qui vont amorcer ce premier peuplement d'une vague qui va couvrir toute l'Amérique, donc à peu près la cale à 20 000 ans. Le patrimoine génétique de cet individu serait ancestral à l'ensemble des populations amérindiennes. Et donc plus tardivement, dans des périodes qui, on va dire, il y a 2000 ans, 3000 ans, il y a peut-être eu d'autres vagues, mais qui ne vont concerner que la casquette arctique de la Sibérie et de l'Amérique, et donc de ces populations.
Carole Fritz, alors puisque vous êtes là, on en profite, parce que c'est exactement notre sujet, hein. Oui. L'art rupestre amérindien, alors on le voit émerger à quel moment? On a des traces aujourd'hui qui datent de quand?
Oui, il y a des traces de deux mammouths qui semblent anciens dans le centre des États-Unis. Le problème, c'est qu'on n'a pas de datation.
Ouais.
Les recherches qui sont actuellement menées, qui ont été menées là, en génétique, sont très importantes, puisqu'on se doute bien que le continent américain a été peuplé anciennement.
Ouais.
On a toutes les données sur les populations, on va dire, plus récentes.
Mm-hmm.
Mais forcément, elles sont arrivées, et on pense au paléolithique.
Ouais. Mais on n'a que ces deux mammouths-là? Il n'y a pas autre chose.
Gilles Tozzello. On a des choses, d'autres choses, mais qui sont très éparses. Essentiellement aussi à cause de ce qui s'est passé au point de vue climatique. Mm-hmm. Le nord de l'Amérique a été fortement touché par la glaciation. Et donc, on pense qu'il y a une bonne partie de toute façon du continent qui était à peu près inhabitable. Mais donc, ce sont plutôt les régions situées à l'ouest et au sud des États-Unis qui ont des traces. Par exemple, pour vous donner une idée, la seule peinture datée avec certitude, elle n'a que 4000 ans.
Ouais.
Elle est au Texas, hein, dans la rivière Pecos, donc à la frontière avec le Mexique, et c'est certainement pas la plus ancienne. Hein. Après, on a des gravures dites d'art mobilier, c'est-à-dire des incisions sur des pierres qui, elles, ont plus environ 12 000 ans.
Et donc, la difficulté aussi de dater, hein, c'est ce que vous nous dites.
Hein. Tout le problème est là.
Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane Mazière, pour ces explications donc, autour de l'étude de ce génome, de ce nourrisson qui donne des informations donc, sur l'arrivée des premiers peuples amérindiens. Merci à vous, merci aux équipes de Marseille et Agnès, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, passé sur le billard est plus risqué. En Afrique, le taux de mortalité lors des opérations chirurgicales y est deux fois plus élevé qu'en moyenne dans le monde. C'est le résultat d'une étude parue dans la revue médicale The Lancet. Elle combine les données de 247 hôpitaux dans 25 pays du continent, ce qui représente près de 11 000 patients. Il en ressort que près justement d'un patient sur cinq a des complications après une opération. Les chercheurs pointent aussi une pénurie de main-d'œuvre, de ressources et un manque de surveillance des patients pendant et après leur opération. Le calcium serait-il le sixième goût? Pour le savoir, des chercheurs de l'Université de Californie ont mené une expérience avec des Drosophila melanogaster, qu'on appelle aussi mouches du vinaigre. Ils leur ont proposé deux mets, l'un composé de sucre, l'autre de sucre et de calcium. Les mouches ont délaissé le mélange contenant du calcium dont la consommation à forte dose peut s'avérer fatale. Mais comment ces mouches ont pu identifier le goût du calcium? Eh bien, grâce à trois neurones gustatifs spécifiques que les scientifiques ont pu identifier. Et selon cette étude parue dans la revue Neurone, d'autres espèces, y compris les humains, pourraient détecter le goût du calcium en plus du sucré, du salé, de la mer, de l'acide et de l'umami. Et puis après la super lune du 1er janvier, notre satellite va offrir un nouveau spectacle avec la lune pourpre ou lune de sang. Un phénomène très spécial qui résulte de trois événements célestes simultanés. Une super lune due à la proximité de notre satellite avec la Terre. Une pleine lune pour la deuxième fois en un mois. Une éclipse lunaire totale qui la teintera de rouge et de bleu. Ce genre de phénomène ne s'est pas produit depuis 150 ans. À vos agendas donc, c'est prévu pour le 31 janvier. Allez, l'art préhistorique, c'est le dossier de l'émission dans un instant.
La police.
Calypso Valois, apprivoisé à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
L'art de la préhistoire, c'est un livre exceptionnel qui vient de paraître aux éditions Citadel et Masno et qui retrace à l'échelle mondiale l'ensemble des connaissances donc sur les premiers chefs-d'œuvre de l'humanité avec une iconographie 700 illustrations et c'est le dossier de l'émission cet après-midi avec mes invités Carole Fritz et Gilles Tozello. Carole Fritz, vous êtes donc archéologue, spécialiste de l'art préhistorique, chercheuse au CNRS et responsable du Centre de recherche et d'études de l'art préhistorique Émile Cartaillac. C'est à la Maison des sciences de l'homme et de la société à Toulouse et vous avez coordonné ce travail, ce livre donc sur l'art de la préhistoire. Et puis Gilles Tozello, vous êtes plasticien et préhistorien et vous êtes membre de ce laboratoire Traces du CNRS dont on a déjà parlé dans l'émission. Vous avez travaillé entre autres à la reproduction de la fresque des lions au sein de la grotte Chauvet et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. D'abord j'ai deux questions à vous poser. Parce qu'évidemment, vous avez fréquenté ces grottes et la grotte Chauvet en particulier de très près. Vous êtes des privilégiés, hein, vous en rendez bien compte par rapport à tous ceux qui n'auront pas la chance d'aller voir ces sites. Qu'est-ce qu'on ressent justement quand on pénètre dans ces lieux, presque comme des découvreurs au fond, Carole Fritz?
La première entrée, elle s'est faite quand Jean-Claude a monté l'équipe scientifique, puisqu'on fait partie de l'équipe scientifique. Ouais. Et là, ça a été un choc émotionnel intense.
C'était tout de suite après la découverte? À quel moment ça s'est fait? Parce que la découverte, c'est 94.
C'est 94.
Il faut le rappeler pour
Chauvet.
Nous,
on a dû rentrer en 96, l'équipe scientifique. Et là, ça a été... on avait vu des photos, hein, bien sûr.
Bien sûr, oui.
Mais entre les photos et la réalité, parce que c'est une grotte qui est magnifique de par les dessins, mais magnifique par l'environnement aussi. Ouais. Parce qu'elle est très bien conservée. Il y a eu beaucoup de calcites qui se sont déposés. C'est extraordinaire. Et le choc a été... Bon, je me suis mise à pleurer devant le panneau des chevaux. Mais c'est comme sous le plafond de la chapelle Sixtine ou les bisons de la grotte d'Altamira. C'est-à-dire que ça a été très très fort, très intense. Mmh. Et malgré toutes ces années, c'est resté. C'est-à-dire que
l'émotion reste la même
parce qu'on est face à des œuvres qui sont les œuvres d'art de l'humanité. Quoi.
Absolument. Alors, quant à vous, Gilles Tozello, parce que vous avez aussi, en travaillant à la reproduction, vous avez été aux premières loges avec du temps en plus. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous avez pu rester très longtemps face à ces œuvres. Qu'est-ce qu'on ressent alors face à ces travaux de ces artistes?
On ressent un profond respect pour justement ce travail artistique, c'est-à-dire on est habitué à voir le résultat, ce qui est magnifique sous nos yeux, etc. Et moi, en fait, je me suis beaucoup intéressé à l'occasion de la réplique. Je me suis dit, tant qu'à reproduire une œuvre, autant essayer de comprendre comment elle a été faite, de façon à la reproduire de manière plus intelligente et sans doute plus efficace au niveau du rendu. Et donc, c'est là qu'on voit effectivement tous les choix, les hésitations, les repentirs, finalement, à la fois la méthode et les objectifs des artistes.
On peut ressentir des hésitations artistiques.
Ah oui, il y en a peu, mais on en a, moi j'en vois quelques-unes avec certitude, c'est-à-dire des corrections de tracé, puisque sur le rocher, on ne peut pratiquement rien cacher. Il n'y a pas de gomme, si vous voulez. Voilà, il faut gratter. Ouais.
Alors justement, il y a une première question qui arrive de la part de Sylvain et que je voulais vous poser. Est-ce qu'on parle d'art pariétal ou d'art rupestre et quelle est la différence exactement entre les deux ?
C'est une différence de langage.
Ouais.
On parle plutôt d'art pariétal pour l'art des grottes, qui est essentiellement l'art du paléolithique supérieur, il faut le dire, hein, donc entre moins 40 000 et moins 10 000. Mmh. Et pour l'art de plein air, on parle d'art rupestre. Mais il est vrai que dans le langage, ça se mélange un peu.
Voilà.
Alors c'est vrai que moi, je dirais plutôt, j'ai tendance à dire plus pariétal parce que je suis paléolithicienne à l'origine. Mais les gens qui travaillent plutôt sur le rupestre en extérieur diront rupestre, mais c'est la même chose, c'est de l'art, des expressions graphiques sur les parois de les roches.
Oui, sauf qu'on va voir justement que le travail artistique à l'intérieur des grottes ou à l'extérieur, ben, c'est pas du tout la même chose, et en particulier selon les régions du monde. Hein.
Ah oui, il faut savoir que les grottes, elles sont plutôt en Europe. Il y a quelques grottes ornées dans d'autres, sur d'autres continents, mais majoritairement, donc c'est l'art du paléolithique supérieur. Et après le paléolithique supérieur, la grotte va sortir de l'esprit humain, si je puis dire.
Ouais.
Puisque pénétrer dans une grotte à 300 mètres de l'entrée, par exemple, pour notre culture judéo-chrétienne, c'est assez mal vu. Alors que pour le paléolithique, c'était le fondement de leur racine.
Ouais. Gilles Tozello, on peut parler de quel type de forme artistique, justement, parce que là, on a l'idée justement des parois et de la peinture, mais il n'y a pas que ça hein, dans l'art préhistorique, loin de là. Hein.
Non, il y a c'est une infinie diversité. Il y a évidemment les peintures, les dessins, donc qui sont faits à base de pigments, de couleurs, appliqués avec les doigts, appliqués avec des pinceaux, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des gravures, hein, qui sont donc des enlèvements de rochers, de matières, avec des galets, avec des silex taillés, parfois même avec des outils métalliques, pour les civilisations les plus récentes. Et puis après, vous avez aussi des sculptures, hein, donc qui sont beaucoup plus rares, mais qui existent à peu près sur tous les continents, dans les grottes et en plein air. Bon, le problème des sculptures de plein air, c'est qu'elles sont souvent beaucoup moins bien conservées. Hein. Mais non, on a à peu près la gamme de tout ce qu'on appelait autrefois les beaux-arts.
Oui, hein, voilà. Avec des objets, donc aussi. Hein.
Et il y a aussi, évidemment, il faut pas les oublier, l'univers incroyable, enfin en nombre de tous ces objets, peints, sculptés, gravés, etc.
Ouais, alors Pierre demande à quelle époque on découvre justement les premières œuvres d'art pariétal. Est-ce qu'il n'y a pas eu scepticisme lors des premières découvertes? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'incrédulité, Carole Fritz? On a une date officielle d'apparition, au fond, de cet art rupestre ou pas?
Alors, oui, l'apparition de l'art rupestre. Alors, il y a deux choses. Il y a la reconnaissance de l'art rupestre, qui est 1902, en Europe. Hein. C'est un grand colloque qui s'est tenu en Dordogne, le coq de la face, où là, tous les préhistoriens sont réunis. Il y a eu la découverte d'Altamira. Hein. Ne pas oublier en Espagne que Altamira, à la fin du 19e, notamment Émile Cartaillac, trouvait que les peintures étaient trop fraîches.
Ouais.
Elles
avaient quel âge en l'occurrence?
Elles avaient 15 000 ans.
Voilà.
Mais il
la
a écrit.
Était longue à sécher.
Mais il a écrit par la suite, quand même, il y a peu de chercheurs qui le font, hein, le mea culpa d'un sceptique pour dire ok, je me suis trompé. Et en 1902, il y a un colloque où beaucoup de discussions, parce qu'il y aura quand même des gens qui n'y croiront pas, mais où les grands préhistoriens présents, dont Cartaillac, dont Breuil, et puis Émile Rivière, qui travaille sur les sites, qui travaille sur les sites de Dordogne, disent « Ok, c'est comme ça, les hommes antédiluviens ont aussi peint dans les grottes. » Parce qu'on savait déjà qu'ils faisaient des objets gravés.
Oui.
Puisque
ça, c'était admis quand même.
C'était difficile, c'était admis, mais difficile quand même. Il ne faut pas oublier que la séparation de l'Église et de l'État, c'est au même moment, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a aussi tout ce poids-là derrière, hein, qui est très lourd à porter. Mmh. Mais 1902, on sait que les hommes préhistoriques faisaient des dessins, et en plus de dessins de faune disparue.
Ouais. Donc ça, c'est le moment où on admet justement que les hommes ont été des artistes, mais les premières œuvres en elles-mêmes, la plus ancienne datation finalement, elle remonte à quand ?
Vous voulez dire la première grotte ornée découverte?
Traditionnellement,
on dit que
l'art le plus ancien, finalement. S'il faut prendre un objet ou une peinture, la plus ancienne et qui sert d'étalon un petit peu.
Ancien, traditionnellement, on dit que c'est une gravure sur os qui viendrait de la grotte du Chaffaut, qui se trouve dans la Vienne, donc dans le Poitou, et qui aurait été décrite comme d'âge celtique à l'époque par Prosper Mérimée. Enfin, voilà. Donc c'est en 1834. Mais ça, moi, j'ai fait quelques recherches pour essayer de confirmer vraiment ces dates. Mais bon, c'est au milieu, en gros, on va dire au milieu du 19e siècle, comme le reste. Hein, comme,
Mais je crois que vous n'avez pas compris ma question.
Moi, non,
ce que je voudrais savoir, c'est l'œuvre la plus ancienne
aujourd'hui. C'est la Grotte Chauvet. Non, c'est les statuettes allemandes.
Voilà.
Excusez-moi.
Donc là, on est à combien? On est à 30 000.
On est aux alentours de moins 40 000. Moins
38 000. Moins 40 000,
voilà,
c'est
moins 30, ça. Disons en gros, il y a une période entre moins 38 et moins 36.
Là, j'ai ma réponse.
Voilà, excusez-moi. Excusez-nous. On a ces petites statuettes en Allemagne en ivoire et on a la Grotte Chauvet.
Ouais.
Et on retrouve les mêmes thèmes, hein, justement, entre la Grotte Chauvet et ces petites statuettes en ivoire.
Ouais.
Et ça, pour le moment, c'est les plus anciennes
pour le moment, sur le
continent européen. Après, il y a l'Australie, où on a l'arrivée d'Homo sapiens aux alentours de moins 50 000 en Australie. Alors, pour le moment, en Australie, on n'arrive pas à dater directement les parois. On a des choses aux alentours de moins 28 000 à Gabarnan, à Navarla, pardon, en terre d'Arnhem, en fouille archéologique, un petit morceau de fragments de parois avec un petit dessin noir. Mmh. Mais où il y a du sapiens, il peut y avoir des grottes et des objets plus anciens.
Ouais.
Il y a des dates aussi en Indonésie, hein, qui ont été publiées il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans. Qui donne aussi toujours sur la même fourchette, hein, qui sont entre 35 et 40 000.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre la découverte de l'art préhistorique et vous répondez aux questions des auditeurs qui arrivent sur franceinter.fr.
Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off. Start all over again. Nothing's impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip. And pick yourself up, dust yourself off, and start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off. Start all over again. Like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath. Pick yourself up. Dust yourself off. Start all over again.
Pick up yourself, la voix de Gregory Porter. « Carole Fritz, Gilles Tozzello, mes invités cet après-midi à l'occasion de la publication de ce beau livre, L'art de la préhistoire, sous la direction donc de Carole Fritz aux éditions Citadelle et Masno. Comment on s'attaque à un tel travail, justement, Carole Fritz, pour essayer de retracer à l'échelle mondiale l'ensemble des connaissances sur l'art préhistorique, avec donc ce livre qui fait 600 pages, qui regroupe 700 illustrations, et vous auriez pu en faire une dizaine comme ça, quasiment, hein ?
Oui. Ouais. C'est assez facile à faire, entre guillemets.
En tout cas, il y a de la matière.
Voilà, il y a de la matière.
Il y a beaucoup de matière.
Oui, il y a beaucoup de matière. Alors, s'attaquer, c'est... Oui, c'est un peu ça.
C'est 500 siècles d'art rupestre, au fond ?
Oui, tout à fait. L'idée du départ, c'était de faire un livre sur les recherches récentes en Europe. Sur la relation art et société dans les sociétés préhistoriques. Et Citadelle et Masno nous a demandé, est-ce qu'on pourrait pas faire une vue générale sur l'art rupestre mondial. Et là, avec Gilles et Gilles Tozzello,
vous avez eu le vertige.
On a eu un peu le vertige. On en a parlé entre nous avec les membres du comité éditorial. On s'est dit, mais comment on va faire ? Alors, il a fallu faire des choix. Et les choix, c'était des choix scientifiques, on va dire, parce que nous, on voulait que ce soit les acteurs de la recherche qui écrivent les articles et pas nous qui entamions une lecture pour faire des synthèses. Donc, on a demandé à nos collègues qu'on connaît bien de faire ces synthèses et de faire certains focus sur certains sites, sur certains continents.
Ouais.
Bien sûr, il y a des frustrations, puisque on n'a pas pu tout mettre et on voit aujourd'hui ce qui manque, mais on était limité par les pages, par le volume. Ouais. On n'en avait le droit qu'à un volume, pas à deux ou trois.
Ouais. Donc, c'est déjà un ouvrage de référence et c'est important. Hein, quand on veut avoir des connaissances sur l'art préhistorique, on peut y aller les yeux fermés parce qu'on est sûr d'y trouver les bonnes informations avec les recherches les plus récentes. Vous vous inscrivez dans une tradition éditoriale aussi, finalement, avec ce livre, hein.
Oui, ce livre est pour nous important puisque c'est le numéro 50 de chez Citadelle et Masno. Le numéro 1, c'était Préhistoire de l'art occidental d'André Leroy-Gourhan. Alors, on ne se compare pas à André Leroy-Gourhan, mais on essaie de mettre en place, pour nous, c'est important de faire voir que la recherche a évolué, puisque Préhistoire de l'art occidental, c'était Préhistoire de l'art occidental, comme l'a écrit Philippe Dagen dans Le Monde, c'est-à-dire focusé sur l'Europe, et c'est les thèses d'un seul homme, ouais. Alors que nous, on a ouvert...
C'est un collectif.
C'est un collectif, et c'est ce que est la recherche aujourd'hui.
C'est ça, ça reflète exactement le travail des chercheurs aujourd'hui, qui, d'un bout à l'autre, d'ailleurs, de la planète, échangent leurs informations
exactement,
et leurs
découvertes. Exactement, merci Internet.
Ouais. André Leroy-Gourhan, on va lui rendre hommage d'une certaine manière en écoutant sa voix, extrait d'une archive de 1965 sur France Inter.
Ce qu'on n'avait pas vu peut-être jusqu'alors, c'est le fait que la caverne était sentie par les paléolithiques comme un fond dans lequel s'ordonnaient leurs figures. N'est-ce pas ? J'ai été obligé de prendre le détour de la topographie statistique, de fixer des centaines de figures dans leur situation, pour m'apercevoir que finalement, les bisons n'occupaient pas la même position que les chevaux, que les taureaux, que les cerfs, que les bouquetins, etc. Et que tout ça s'organisait dans un système où on retrouvait les mêmes fréquences, c'est-à-dire l'opposition du bison et du cheval, ou du taureau et du cheval, ou du mammouth qui vient compléter un groupe bison-cheval, etc. Découverte qui, pour moi-même, a été très inattendue.
Voilà, 1965, c'était au moment de la sortie justement de la préhistoire de l'art occidental, André Leroy-Gourhan. Qu'est-ce qu'il nous explique au fond, Gilles Tozzello, dans l'extrait qu'on vient d'entendre ? Parce qu'il parle de système, il parle de fréquence, comme s'il y avait déjà des règles établies dans l'art de l'époque. Est-ce que c'était le cas, vraiment ?
Oui, c'était d'abord merci d'avoir passé cette archive qui est assez passionnante, je ne la connaissais pas. Mais il s'est attaché à voir ou à mettre en évidence Leroy Gourhan cette démarche structuraliste, hein, c'est-à-dire en gros le lien qu'il y a entre le thème, le sujet représenté et sa position dans l'espace de la grotte. Et le lien que ce sujet va entretenir avec d'autres thèmes, etc. Et c'était la première fois, effectivement, qu'on avait mis en avant un peu cette particularité qu'on peut effectivement ressentir aujourd'hui. Bon, peut-être pas dans les termes que lui expose, parce que ça, c'est une analyse, on va dire, personnelle. Mais il est évident que si on prend l'exemple de Lascaux, ou si on prend l'exemple de Chauvet, des grandes grottes, on voit bien que le parcours dans la grotte est aussi important que les thèmes représentés.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on ne représente pas n'importe quoi, n'importe où.
Et ouais. que... Donc il y a des règles quand même.
Il y a des règles. Alors, c'est là que ça devient de plus en plus complexe. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'objectiver les arguments qui mettent en avant ces règles.
Ouais. Alors ça c'est passionnant aussi d'un point de vue scientifique, Carol Fritz, c'est la représentation et l'interprétation surtout des choses. Parce que évidemment, parfois on avance un peu sur des sables mouvants, hein, mais c'est aussi la science. C'est-à-dire qu'on fait des hypothèses et en l'occurrence sur cet exemple précis, on admet qu'il y avait des codes, au fond, qu'on peut retrouver d'ailleurs d'une grotte à l'autre ou d'un continent à l'autre.
Alors, d'un continent à l'autre, j'irai pas jusqu'à là.
Ouais.
Pour l'art paléolithique, parce qu'en plus, bon, il est très restreint.
Là, on est plus
mais
en Europe, ouais.
Pour l'art paléolithique en Europe, oui, c'est, il faut. En fait, ce que le roi Gourand a apporté depuis très longtemps, c'est que reconnaître cette structuration de l'art paléolithique, c'est aussi reconnaître que ce sont des codes et qu'on nous transmet un message. Mmh. Alors, notre problème à nous, c'est qu'on n'a plus les locuteurs, on n'a pas les langues, on n'a plus les personnes. C'est-à-dire que pour comprendre ces messages, on travaille sur les dessins et on travaille sur les sites archéologiques, c'est-à-dire sur les sociétés qui ont produit ces dessins. Alors là, c'est très difficile. Alors, c'est vrai que les interprétations actuelles, on est plutôt vers des tendances mythologiques. C'est-à-dire que, et ça, Chauvet, la découverte de Chauvet nous a beaucoup apporté puisqu'on a reconstruit nos paradigmes. C'est-à-dire que Chauvet a balayé tout ce que l'on pensait sur l'évolution de l'art et on a dû se remettre... À nos feuilles et à reprendre les chevaux en essayant de tirer des fils pour essayer d'aller vers d'autres interprétations.
Ouais. Pourquoi justement Chauvet a autant redistribué les cartes, Gilles Tozzello, alors qu'on comprenne bien ce que vous dites sur les bouleversements au sein même de votre discipline?
C'était, pour reprendre une expression un peu savante, c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme, c'est-à-dire en fait une ouverture d'une nouvelle perspective. Et ça arrive pas si souvent dans l'histoire d'une discipline, surtout en sciences humaines, parce que on était auparavant, jusqu'en 1995, jusqu'aux premières datations, les datations très anciennes donc pour la grotte Chauvet, on était persuadé que l'art évoluait comme l'humanité, c'est-à-dire qu'en gros on passait du simple au complexe et que on avait comme ça des gradations qui étaient fondées sur un seul critère important qui était la ressemblance au modèle. C'est-à-dire qu'on estimait qu'un animal, puisqu'il s'agit surtout d'animaux, était d'autant plus élaboré et donc récent qu'il ressemblait anatomiquement, physiquement, physiologiquement presque, à son modèle. Et donc, on en était arrivé à bâtir donc ce système qu'on croyait très solide. Or, la grotte Chauvet, en apportant des dates extrêmement anciennes sur des dessins très élaborés, a simplement inversé complètement la donne.
Alors, Carole, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces hommes préhistoriques, justement? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Alors, c'est de la spiritualité? Ce sont des histoires inventées? Annie nous dit, une question de tarot depuis longtemps, est-ce qu'il serait possible que ces expressions graphiques soient en fait comme un tableau de chasse ou un tableau de salle de classe pour apprendre aux jeunes à chasser ou des sortes de paperboard d'avant-campagne de chasse entre hommes adultes?
Alors,
il y a plein de choses à dire.
Oui,
là,
il y a beaucoup, beaucoup de choses. L'art de la chasse, je pense pas. Mais c'est un paperboard de mythe. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de société dite ancienne sans mythe, sans mythologie, puisque les mythes vont expliquer le passé, organiser le présent et ouvrir le futur, c'est-à-dire organiser le présent aussi en les relations sociales, organiser la société. Or, la grotte Chauvet nous a fait prendre conscience que ces parois, en fait, elles étaient beaucoup plus narratives que ce qu'on l'imaginait. Et en travaillant dessus avec nos collègues, bien sûr, on ne fait jamais ça seul, on s'est aperçu que c'est certainement des... Moi, j'aime bien reprendre, détourner l'expression de Lévi-Strauss, ces mythèmes, ces petites histoires, en fait, de mythes. C'est-à-dire que sur la salle du fond, on voit ces lions à Chauvet qui vont chasser ces bisons, en fait. Et face à quoi? Face à un pendant rocheux où on a un corps de femme, du moins le bas d'un corps de femme associé à un lion et à un bison. Là, on est complètement dans l'interprétation. La mort, la vie... On pense qu'il y a ça. Et bizarrement, quand on regarde ces images et qu'on les cherche tout au long du paléolithique, on les retrouve.
Ouais.
Et il est difficile de ne pas associer Chauvet à, par exemple, à un site comme Angle-sur-Langlin, où travaille Geneviève Pinson, qui est dans le comité éditorial de ce livre. Ouais.
Gilles Tozello, ça veut dire qu'il faut aussi regarder l'ensemble de la grotte lorsqu'on est à l'intérieur, parce que certaines parois aussi peuvent se répondre pour nous dire des choses. Il ne faut pas rester plaqué juste sur l'une d'entre elles.
Non, c'est ça qui est le plus difficile. Il faut essayer de se rappeler de ce qu'on a vu avant pour l'intégrer progressivement. C'est pour ça qu'on emploie le terme de parcours, hein, un peu comme on le refait dans un sanctuaire antique ou dans une église. Hein. On voit bien qu'il y a une sorte de répartition des thèmes en fonction de l'espace de l'église ou du temple. Donc là, on est un peu... Pour employer une image qui vaut ce qu'elle vaut, on est un peu dans le même cadre.
Ouais. Pourquoi pas plus de représentations humaines, demande Julien.
Alors Carole la représentation
Fritz,
humaine.
Pourquoi tous ces animaux et si peu d'homo sapiens sapiens?
Ça, c'est une des particularités de l'art paléolithique. C'est-à-dire que sur toute la totalité, entre moins 30 000, on va dire, moins 40 000 et moins 12 000, moins ouais. 11 000, la figuration humaine ne représente à peine que 5% du corpus total.
Ouais.
Ce qui va changer hein, dans les arts post-paléolithiques.
Absolument.
Où l'homme, ouais. là, va se mettre en scène.
Alors, je pense, par exemple, vous voyez, j'ouvre la page 199. Un exemple parmi tant d'autres. Hein,
voilà.
On a l'Algérie, par exemple.
Oui.
Des choses magnifiques. Mm-hmm. Vous pouvez nous les décrire en quelques mots, Carole Fritz. Justement, on voit beaucoup
c'est
d'hommes.
C'est surtout Michel Barbaza qui pourrait vous les décrire mieux que moi. Oui, bah, y a des scènes de. On voit en Algérie, sur ces parois, où l'homme, en fait, se met en scène. Le pasteur.
Avec ses animaux.
Avec ses animaux.
Ouais.
On voit aussi des scènes de danse. Où il y a des rapports très forts entre justement les bovins et les humains par rapport aux colorations des bovins. On voit des troupeaux, on voit des gens qui ramènent les troupeaux vers les camps.
Ça c'était il y a 3000 ans.
Voilà, ça au paléolithique, ça n'existe pas.
C'est ça. Ouais.
Ça n'existe pas. C'est la grande différence. Le paléolithique, mais c'est l'image animale qui va dominer, mais au travers de cette image animale, c'est certainement des histoires d'hommes qu'on nous raconte. Mais c'est pas l'homme qui se met en scène.
Ouais. Francine nous écrit sur franceinter.fr, nous dit « Pensez-vous que les dessins sur les parois ont été faits grâce à des projections d'ombre à partir de petites figurines et grâce à l'utilisation de lampes à huile, ce qui leur permet d'avoir une précision des contours et de jouer avec des échelles de taille différentes ?» Ça, c'est pour vous, alors, Gilles Tozello.
La réponse est définitivement non.
Ouais, ah.
C'est sûr. S'il y a une chose dont on est sûr, c'est bien ça. Ça fait référence à une théorie qui a été développée dans un livre que moi, personnellement, je ne conseille de ne pas lire, mais qui part du principe qu'effectivement, on fabriquait des petites statuettes. Alors, on ne comprend pas bien comment on les manipulait, ouais. on les fixait au bout de baguettes et on les éclairait. Enfin, tout ça, ouais. quand on connaît un peu et de près le travail des artistes de Lascaux, d'Altamira ou de tous les arts rupestres du monde, c'est leur faire insulte que d'imaginer. Bon. Voilà.
Alors, c'est quoi la version officielle alors, ou l'autre version reconnue par les scientifiques en tous les cas
la
façon de procéder, justement.
Ah, la façon de procéder. Ben, la façon de procéder, elle commence simplement par d'abord posséder un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Hein. Mmh. C'est pour ça qu'on a des traditions différentes suivant les pays, suivant les régions. Et ensuite, par travailler, posséder donc à partir de cette technique, préparer ses pigments, préparer ses charbons, apporter de la lumière.
Mmh.
Et à ce moment-là, quand on voit tout le travail qui a été fait, par exemple, à Lascaux, hein, on a des données incroyables sur les manières dont ils ont travaillé. Et je peux vous dire que c'est pas en projetant des petites statuettes d'argile avec une lampe à graisse qu'ils ont procédé.
Ouais. Jérôme demande comment expliquer une telle conservation justement des œuvres d'art dans la durée. Qui veut répondre, Carole
ça,
Fritz
Moi, je dirais, c'est un miracle. C'est pour ça qu'après, une fois qu'on découvre un site...
C'est un drôle de mot dans la bouche d'une scientifique, ça.
Je suis d'accord avec vous, mais vous savez, quand on voit des sculptures en argile conservées au fond de la grotte du Tuc de Doubert, qui ont 14 000 ans, des sculptures en argile qui font 30 cm chacune de l'eau, là, on se dit, rien n'est tombé du plafond, ouais. L'humidité n'a pas envahi la grotte, pour etc. Alors après, parce que les grottes se sont fermées, parce que il n'y a pas eu de pénétration importante d'air, d'eau, etc. C'est pour ça que je dis, on est dans un milieu vivant. Une grotte, un abri, ça bouge tout le temps, tout le temps. Et c'est pour ça qu'après, quand on découvre un site comme ça, il faut que les États qui sont en charge de ces sites d'art rupestre, qu'ils soient paléolithiques, post-paléolithiques, actuels, prennent toutes les conditions nécessaires pour préserver ces sites. Et c'est là que ça commence à... qu'il y a des choses à voir. Mais il faut dire qu'en France, le ministère de la Culture est au sommet de ces terres de conservation et on voit très bien ce qu'ils ont fait pour Chauvet, par exemple.
Quand vous dites actuel, évidemment, on a l'oreille qui sonne, parce que ça veut dire quoi, l'art actuel dans ce domaine? On fait encore
du
dessin ou des peintures sur les parois?
En Australie ou en Inde. Alors, évidemment, moi, j'ai le regard de l'archéologue européen, bien sûr. Mais, par exemple, les aborigènes continuent à peindre dans les sites de leurs ancêtres. Et ça, c'est très important également.
On va en parler, évidemment, de cet exemple australien, parce qu'il est passionnant. Et vous l'abordez, évidemment, longuement dans cet ouvrage. On va juste écouter avant l'extrait d'un documentaire qu'Arte avait diffusé il y a quelques jours, quand Homo sapiens peupla la planète Australie autour du site de Nawarla.
Nawarla Gabarnmang est un gigantesque abri rocheux façonné par les vents, mais également sculpté par la main de l'homme. C'est sans doute l'un des plus vieux monuments du monde. Il daterait de 28 000 ans.
Mes ancêtres ont vécu ici. Tous les membres de ma famille sont présents pour toujours à Nawarla Gabarnmang.
Les parois sont couvertes de plusieurs strates de dessins représentant les animaux que chassaient les aborigènes.
Ici, c'est une dorade. Là, je vois un crocodile. Celui-ci, c'est un grand kangourou qui va jusque-là.
Les archéologues n'ont pas encore exhumé d'ossements humains ici, mais ils ont retrouvé des œuvres d'art de plus de 30 000 ans.
C'est un petit fragment de la surface peinte. On voit plusieurs lignes. Une ligne droite, coupée par une ligne incurvée. Que représentait le dessin d'origine? Mystère.
Voilà, des mystères et des beautés stupéfiantes à découvrir en Australie sur ce site de Nawarla. D'ailleurs, j'invite les auditeurs qui nous écoutent à taper sur leur moteur de recherche Nawarla, N-A-W-A-R-L-A, en Australie, pour voir un petit peu de quoi on parle avant d'acheter votre livre, évidemment, parce qu'il y a énormément de photos. Carole Fritz, vous êtes allée sur place, vous connaissez évidemment ce site qui est tout à fait exceptionnel dans l'art, j'allais dire préhistorique, mais c'est presque compliqué de dire qu'il n'est pas que préhistorique, il est aussi contemporain, hein.
Alors, je ne suis pas allée à Nawarla, hélas, mais les collègues français qui travaillent à Nawarla, on les connaît très très bien, qui sont Jean-Michel Geneste, Jean-Jacques Delannoy, qui travaille avec Bruno David, qui lui est un franco-australien, mais qui vit en Australie depuis des années. Non, c'est un site magnifique, exceptionnel. Alors, il est content.
On peut le décrire parce que ce sont des plafonds sur des...
En fait, c'est un abri, c'est ce qu'on appelle un abri sous roche qui a été taillé, aménagé par les aborigènes. Ils ont taillé, ils ont fait des piliers.
Avec des piliers.
Et ces plafonds sont couverts de peinture jusque dans les années 30. Ça doit être ça. Et
avec cette ocre qu'on retrouve
beaucoup.
Ces
couleurs très vives.
Vraiment très typiques.
C'est les couleurs naturelles, c'est-à-dire tous les oxydes de fer, plus le blanc, certainement du kaolin. Et il y a toute la nature qui produit la couleur et qui donne la matière aux artistes aborigènes.
Alors c'est bien parce qu'il y a une photo où justement on voit, je crois que c'est une dame aborigène d'ailleurs qui est sur la photo, donc elle est quasiment à hauteur de pilier, c'est-à-dire qu'on pouvait peindre Gilles Tozzello simplement en tendant le bras, c'est ça?
C'est-à-dire qu'en fait là le plafond de espèce de table rocheuse, le plafond rocheux, est juste à portée de main. Et donc on circule dans cet espace à la fois naturel et retaillé par les hommes. C'est sûr que ça en fait un compromis, un mixte tout à fait unique.
La datation justement de ce site, Carole Fritz.
Alors les peintures, je vous ai dit, celles qu'on voit à l'heure actuelle sont récentes, des années 30. Mais les fouilles ont été menées par Bruno David et son équipe. Et là, on a des dates aux alentours de 28-30 000. Une petite plaque avec quelques traits de peinture, plus des outils en silex. Alors évidemment, ça ne date pas directement les plus anciennes peintures, puisqu'il faut faire le rapport entre les parois. Mais il y a une coupe très très ancienne. Et je pense qu'en Australie, il y aura des dates très anciennes pour les peintures.
Sauf que Gilles Tozzello, il faut quand même en dire un mot, parce que ça fait aussi la particularité de ces sites aborigènes, c'est qu'on peint encore sur ces peintures très anciennes, c'est ça?
Eh bien, oui, c'est un peu la particularité de ce continent, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a encore un art rupestre vivant, et dans certains cas, dans certains sites et dans certaines cérémonies, des artistes vont ajouter des œuvres sur, on va dire, sur des parois avec déjà peintes depuis fort longtemps.
C'est comme si on arrivait à Lascaux et qu'on remettait un petit coup de peintre. Vous pourriez le faire, vous, d'ailleurs, parce que vous savez drôlement bien les reproduire, ces grottes. Donc, c'est comme si vous arriviez à Chauvet et que vous remettiez votre pâte en faisant autre chose.
C'est un peu différent parce que nous, on a quand même perdu le fil du message depuis Chauvet et Lascaux, ouais. Alors que eux l'ont gardé. Donc, c'est sûr qu'ils ajoutent quelque chose, mais quelque chose qui est pertinent par rapport au substrat.
Et c'est autorisé.
Ah oui, c'est
autorisé. Et artistiquement, les aborigènes d'aujourd'hui sont aussi doués que leurs ancêtres d'il y a 15 000 ou 20 000 ans ou pas ? Allez, franchement, sans langue de bois. Sans langue de bois, Gilles Tozzello.
Ben, il y a c'est comme dans tous les pays et les continents. Il y a de très grands artistes, y compris des artistes d'ailleurs qui vendent sur toile. Hein. Motifs traditionnels maintenant ont aussi quitté la paroi et l'écorce pour se transporter sur des toiles et être vendus à l'étranger. Ouais. Donc non, il y a de très très grands artistes.
Et d'autres beaucoup moins doués.
Et d'autres moins.
Voilà. Carole Fritz, pour terminer, Rémi nous dit, j'ai l'impression que le graffiti contemporain est régi par les mêmes intentions créatives que l'art pariétal. Le graffiti d'aujourd'hui est-il l'art rupestre de demain?
Ah oui, Alors, il faut faire... Bien sûr, il y a des marges, c'est-à-dire que le message de l'art rupestre n'est pas celui du graffiti contemporain. Mmh. On n'est pas... Le graffiti contemporain n'est pas une religion, quoi, avec... Je mets toujours des guillemets à ce mot, mais voilà. Mais pour moi, quelqu'un comme Brandi est un artiste rupestre de premier ordre.
Mmh. Et puis Simon nous dit, les peintres dits modernes et contemporains se sont-ils inspirés de l'art pariétal? Alors c'est un complément de question finalement à la précédente.
Bien sûr, il y a des même contemporains, il y a des gens tout à fait... L'art pariétal...
On dit que Picasso s'en est inspiré.
Oui.
Picasso se serait inspiré des...
Voilà, et c'est très fréquent, et je pense que les artistes contemporains, quand ils se retrouvent face à des parois comme Chauvet, sont forcément dans l'interrogation.
Merci beaucoup en tout cas à vous, et félicitations pour ce travail qui fait déjà date, l'art de la préhistoire, donc aux éditions Citadel et Masno. C'est un très beau livre avec donc ces très nombreuses illustrations, 700 hein, pour l'iconographie, que vous avez dirigé, Carole Fritz. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci.
Dans la tête au carré.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Et bonne année.
Merci, vous aussi.
Alors vous allez encore casser un mythe aujourd'hui pour commencer justement 2018, celui de l'intérêt de prendre des compléments en vitamine D ou en calcium pour renforcer son squelette.
Eh oui Mathieu, et puis bon, je me mets à la place de nos auditeurs, hein. Ils doivent finir par se demander si je crois encore en la médecine.
Pourtant vous êtes médecin, je le rappelle.
Oui, je les rassure, plus que jamais. Mais bon, si les bienfaits de la médecine sont innombrables, ses victoires contre la maladie ne la protègent pas des erreurs plus ou moins dramatiques qui entachent son palmarès et qui trouvent presque toujours leur origine dans le pire des pièges scientifiques.
Alors lequel ?
Le bon sens. Mmh. Ce redoutable bon sens qui affirmait que le soleil tournait autour de la Terre, qui nous a fait coucher à tort les bébés sur le ventre pendant 20 ans au prix de milliers de morts, qui nous persuade que le gras est responsable de l'infarctus alors que c'est le sucre. Bref, toutes ces fausses évidences sont nées d'idées séduisantes mais simplistes autant qu'erronées. Et donc, aujourd'hui, on parle de l'ostéoporose, le vieillissement naturel des os qui les fragilise et qui augmente le risque de fracture chez les vieux. Et que nous dit le bon sens ? Eh bien, qu'il y a du calcium dans les os, que le calcium c'est costaud, que la vitamine D fixe le calcium. Donc, prenons des compléments de calcium et de vitamine D pour avoir des os en béton.
Bah oui, on a toujours entendu ça. Où est le problème alors ?
Bah, le problème, c'est que ça marche pas, mais alors pas du tout. On avait déjà eu le problème avec les apports de fluor il y a 30 ans. Ça rendait les os plus durs, mais malheureusement plus cassants. Alors, il vaut mieux avoir des os en bois qu'en cristal finalement. Mmh. Donc, exit la prescription de fluor. Alors, depuis, il y a de nombreux médecins qui proposent en routine aux seniors de prendre des compléments médicamenteux de calcium et de vitamine D, notamment quand le taux sanguin de cette vitamine est bas. Cette stratégie a été évaluée par de nombreuses études scientifiques randomisées, vous savez, celles où on tire au sort ceux qui prendront ou non le traitement et qui autorisent donc des conclusions fiables. Eh bien, le journal de l'Association médicale américaine, le JAMA, vient de publier une méta-analyse, une synthèse de ces études randomisées dont les conclusions sont sans appel. La supplémentation en calcium ou en vitamine D ou les deux ne diminue pas le risque de fracture et aurait même bizarrement plutôt tendance à l'augmenter.
Non.
Oui, carrément. Il n'existe donc aucune raison valable pour prescrire ces suppléments, y compris lorsque les taux de vitamine D sont bas. Et d'ailleurs, la haute autorité de française de santé s'étonne régulièrement de la fréquence des dosages de vitamine D alors que son taux sanguin est sans intérêt en routine, car il ne reflète pas les stocks de l'organisme.
Non mais c'est fou quand même, non ?
Bah, je vous fais pas dire. Hein. Ouais. C'est terrible de voir le temps qu'il faut pour que les médecins, mes chers confrères, perdent leurs mauvaises habitudes. En attendant, chers auditeurs, chères auditrices, sachez que sauf situation très particulière, il est absolument inutile de faire doser votre vitamine D et de prendre des suppléments médicamenteux. Mmh. Les apports alimentaires sont suffisants, à commencer par le calcium du lot du robinet qui en est du vrai. Et surtout, faites de l'exercice, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour renforcer vos os.
Et écoutez le docteur Dupagne qui nous donne des bons conseils chaque semaine dans sa chronique de santé polémique. On peut réécouter d'ailleurs sur franceinter.fr.
Absolument.
Et à jeudi, Dominique.
À jeudi, Mathieu.
Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Daniel. Je jette ma boîte de vitamine D.
Oui, c'est ça, oui. Toute votre pharmacie, vous en avez partout dans les poches.
J'étais au soleil, Fabrice.
Quel sera le thème d'Affaires Sensibles ?
Une histoire survitaminée, celle de Patricia Hertz, une fille de bonne famille aux États-Unis qui est enlevée par des terroristes d'extrême gauche et qui finit par épouser leur cause.
Ah.
Oui, puis ça l'amène en prison. Nous en parlerons avec Lola Lafont, l'auteur du livre Mercy Mary. Patty.
Merci à tout à l'heure Fabrice, Théo Gomard et Henri Bérec étaient à la technique aujourd'hui sur France Inter, il est 15h.